En gros, disent les historiens, l'an 1000, alors c'est une façon de se donner, de faciliter la tâche. L'an 1000, mais bon, il y a quand même des bonnes raisons, parce qu'il y a deux choses qui font vraiment entrer dans l'histoire, c'est l'âge du fer, l'introduction du fer. Et pourquoi le géant Goliath, il était meilleur que les autres et meilleur que les Israélites qu'il combattait? Il était grand, il était gros, il était fort. Surtout, il avait des armes en fer. Les Philistins, ces peuples de la mer qui arrivaient pour des razzias, c'est le principe des Normands remontant la Seine. Hein. Là, ils ne remontaient rien, ils arrivaient, razzias, on pillait les villages autour et on repartait. Parfois, on laissait des petites installations sur place. Voilà. Mais c'est des gens qui commençaient à avoir le fer, et le fer, ça ne casse pas, tandis que le bronze, ça casse. Voilà. Donc, ils étaient plus forts. C'est aussi eux qui ont apporté plus ou moins l'écriture. Et on voit apparaître l'écriture. Et on a les tout premiers textes en hébreu, hébreu ancien, mais en hébreu carré, sur deux stèles qui sont un peu plus tardives que l'an 1000. Quelque chose comme, c'est difficile à dater, mais 870-850. La stèle de Dan. Alors où elle est ma stèle? Je n'ai pas mise. Non, elle est un peu plus loin. Voilà. La stèle de Dan et la stèle de Mécha avec des noms de rois. Du sud, du nord d'abord et du sud ensuite dessus. Voilà. Donc on a des noms là droit d'Israël. Dans la stèle de Dan, 840, on voit apparaître, et c'est la première attestation en dehors de la Bible, et vous savez que pour faire de l'histoire, il faut croiser les sources, de l'expression « maison de David », « Beth David », la maison de David. Donc 850, vous voyez que c'est tard si David c'est l'an 1000, c'est quand même 150 ans après. Et c'est la première fois qu'on a par écrit, quand même, l'attestation d'une dynastie, qui est donc la maison, la dynastie de David, sur cette stèle de Dan. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là que les tribus, est-ce qu'elles étaient 12? Une douzaine, de toute façon, il y en a toujours une 13e, et puis il y en a une qui n'a pas de terre. Enfin, 12, c'est quand même un nombre sympa. Donc on s'arrange pour faire 12. Mais que les tribus qui se réclamaient de quelque chose, d'un Dieu commun, Dieu d'Israël, même s'il avait des noms divers, c'est à ce moment-là que les tribus commencent à espérer se réunir et avoir un roi. En fait, on ne sait pas bien comment ça s'est passé. Probablement, il y en a un qui a pris le pouvoir, et c'est peut-être David, sur l'ensemble, est arrivé à se faire reconnaître par tout le monde. On sait qu'il y a eu des prédécesseurs malheureux. Saül apparaît comme un prédécesseur malheureux, mais Saül n'est pas du tout attesté historiquement. Alors vous allez me dire, ah mais on va leur dire que Saül n'a pas existé. Non, simplement, on n'a pas de source autre que la Bible pour croiser. Et tant qu'on n'a pas de source pour croiser, les historiens vous disent, moi, je ne peux pas vous affirmer. Voilà, bon, pas grave. En tout cas, il y a certainement eu des essais, erreurs, des gens qui ont essayé de réunir les tribus et n'y sont pas arrivés. D'autres qui y sont arrivés, et les capacités, certainement, de politique et de stratégie d'un David, donc lui, il a bien établi une dynastie, et une dynastie qui va durer 400 ans, ce qui n'est pas rien, en gros, de 1000 ou un peu après, jusqu'à 588, donc si je compte bien, ou 598, ça fait 400 ans. Donc, un David qui était un chef de bande, grand roi, il y a un livre qui intitule le chapitre sur David, grand roi ou petit chef de clan. Ah oui, c'était un chef de bande, mais un chef de clan malin. Voilà. Qui est arrivé d'une part à se battre intelligemment contre les Philistins. La Bible non plus ne dort pas le personnage, parce qu'il se bat contre les Philistins en les trahissant abondamment. Il se fait passer pour l'un d'eux. Il se fait passer pour un traître. Qu'il est, mais il est dans l'autre sens. Si vous laissez les espions, vous savez, les espions à deux ou trois, les James Bond avec des espions avec deux ou trois machins derrière. Alors, il se fait passer auprès des Philistins comme quelqu'un qui vient des tribus d'Israël pour se dresser contre elles, pour s'allier un collaborateur, et en réalité, c'est les Philistins qui va trahir en infiltrant leur rang et en détruisant leurs installations et leurs villages. Donc c'est un chef de bande très astucieux qui a derrière lui très vite les tribus qui sont le plus au sud, Benjamin et Juda, dont il vient, et qui est assez intelligent pour se rallier quand même, grâce à ses victoires sur les Philistins qui repoussent quand même jusqu'à la mer, les tribus aussi menacées dans le nord. En gros, tout le monde s'entend à peu près sur le nom de David, intelligent aussi, pour choisir comme capitale une ville qui n'appartenait à personne. Jérusalem, qui était une ville d'un autre peuple, qui était plus ou moins abandonnée, qu'il a exclue, il met là sa capitale. Alors, ensuite, la légende s'en empare, justement, avec cette attention aux vieilles traditions qui, à la fois, disent du bien, bien sûr, du personnage de David, mais qui savent aussi souligner les erreurs, les hésitations et les crimes d'un tel personnage. Après, la légende, elle s'appuie là-dessus, elle est aussi travaillée par des tendances diverses, parce qu'il y a une légende, la légende royale, qui va magnifier David. Et par exemple, dans le livre de Samuel, on vous raconte, deuxième livre de Samuel, l'horrible histoire de David et Bethsabée. Alors Bethsabée n'a pas eu droit à la parole, mais enfin quand même David la récupère pendant que son mari est à la guerre. Quand le mari revient, David essaye de l'envoyer coucher avec sa femme parce qu'elle est enceinte. Il n'y va pas parce qu'il se prépare pour la guerre. Et David finit par l'envoyer au front pour se faire tuer. C'est pas terrible. La légende est gardée dans le livre, le récit est gardé dans le livre de Samuel. Dans le livre des chroniques, qui reprend toute l'histoire des rois, on n'entend plus parler de ça. David est parfait d'un bout à l'autre. Donc il y a une légende royale qui idéalise au cours du temps. Mais on garde le passé. Et puis il y a aussi une légende que je pourrais appeler une légende anti-royale. Anti-royale, par des gens qui se dressent, alors tout le groupe des prophètes, contre l'autorité royale. Et dans le livre de Samuel, on trouve ce texte qui introduit l'idée des rois, mais c'est évidemment relu après coup et jugé après coup. Les anciens d'Israël vont retrouver Samuel, donc ce Samuel qui était comme un juge. Donne-nous donc un roi pour nous juger comme toutes les nations. Voilà, l'idée, c'est d'être comme les autres. Et Samuel ne veut pas. Dieu seul est votre roi. Et surtout, il leur annonce la catastrophe que va être l'institution royale. Voici comment gouvernera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à la cavalerie. Il prendra vos filles comme parfumeuses cuisinières, et la suite. Il prendra vos champs, vos vignes, vos oliviers les meilleurs. Il lèvera la dîme sur vos grains et sur vos dîmes. Vignes, vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous serez choisi. Le Seigneur dit à Samuel, écoute leur voix, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Voilà. L'institution royale est très critiquée, après coup, aussi. Et la Bible tient ça tous ensemble. Les rois, c'est formidable, ça va nous donner la force, l'aura auprès des populations étrangères, ça va nous permettre la stabilité, etc. Mais les rois, c'est dangereux. Voilà. Et il faut tenir compte de ça, et on intègre à la fois la légende royale la plus idéalisée, les récits sur les péchés du roi et la légende, les récits complètement contre, enfin finalement, la polémique anti-royale. Il n'empêche qu'il est bien clair qu'il y a eu une époque, et ça correspond, c'est intéressant, à un affaiblissement des grands empires autour, un affaiblissement des empires mésopotamiens avant que la Syrie se relève la tête et redevienne très forte. Elle va le redevenir dans le siècle suivant. Mais il y a un moment d'affaiblissement. Et du coup, un moment de stabilité et d'économie, de richesse plus grande pour ce petit groupe de tribus d'Israël. Et c'est le règne donc de Salomon qui va être lui aussi magnifié comme un règne de prospérité avec un temple magnifique. Oui, le règne de Salomon n'est pas attesté par d'autres textes que les textes bibliques. Alors vous allez me dire, Salomon n'a pas existé. Mais si. Mais bon, voilà, on n'a pas la preuve de l'existence historique. Les historiens purs et durs, vous dites, Salomon. Bon, en tout cas, il y a eu une époque de richesse et de développement économique et donc de mieux-être social et probablement d'intérêt pour cette dynastie. C'est ce fils de David qui arrivait à comme ça faire grandir le pays. Mais les tensions internes étaient là. Et les tribus du Nord, qui avaient toujours quand même regardé un peu d'un mauvais œil ce David qui venait de la tribu de Benjamin au Sud, qui aimait leur indépendance, vont dès la mort de Salomon se révolter. Et le récit, bien sûr, de 1 roi 12 est beaucoup plus tardif, mais le récit raconte bien, en gardant les vieux mots, qu'au Nord, les tribus du Nord sont venues se plaindre auprès du successeur de Salomon, Roboam, en lui disant « Vous nous accablez d'impôts parce qu'on est au Nord, il faut alléger nos impôts, tout va au Sud et nous alors ?» et que l'autre les a renvoyés bêtement. Malgré les conseils des anciens, il faut toujours écouter les anciens, dit la Bible, malgré les conseils des anciens, et alors le cri, qui est un cri avec en vieil hébreu, « Attétant Israël », les tribus du Nord se sont séparées et ont créé une autre dynastie que Davidique, celle d'un général qui s'appelait Jéroboam. Enfin, voilà, il y a eu des généraux qui ont pris le pouvoir au Nord. Si bien que le royaume uni, celui qu'on peut appeler Israël, et celui qui est resté dans la mémoire comme le grand Israël. Le grand Israël, ça va de Beersheba au Sud jusqu'au Nord de la Galilée. Hein, c'est un mouchoir de poche, quand même. Le grand Israël, ce Royaume-Uni, en réalité, il n'a duré que 30 ans. Mais ça restera toujours comme l'idée, un jour nous serons réunis. Voilà. Un jour il y aura le grand Israël pour louer son Dieu. En fait, très vite, il y a eu deux royaumes différents, deux dynasties différentes, ou plutôt, d'un côté, le petit royaume du Sud, qui va prendre le nom de Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Donc, Jérusalem est la capitale du royaume du Sud, ou royaume de Juda, et qui est gouverné, et c'est ça qui a fait sa force, par une dynastie ininterrompue, de père en fils, depuis David, Salomon, vers 900-930, jusqu'à Sédécias, alors il y a des oncles et des neveux, mais en gros c'est la famille, en 598, ça va ? En tout cas jusqu'à Joachim en 598. Voilà. Donc une dynastie qui tient, au fond, ce tout petit royaume, plus pauvre que l'autre, et surtout une capitale. Le royaume du Nord, lui, va être... au fond, celui qui est connu dans les annales, plus connu dans les annales assyriennes. C'est lui qui, à l'international, est beaucoup plus connu et qui est connu sous le nom d'Israël. Donc, il y a un moment dans l'histoire, et ça va durer assez longtemps, où on va appeler le royaume du Sud, Juda, le royaume du Nord, Israël. Ce qui crée une formidable ambiguïté autour du nom d'Israël. Ça va ? Formidable ambiguïté, dont je ne peux pas vous donner la clé. Parce que dans certains cas, ce n'est que le royaume du Nord qui va durer 200 ans, 930 à 721. Mais c'est lui, les 10 tribus du Nord, avec différents coups d'État et généraux à leur tête. Et dans un certain nombre de cas, plus souvent, c'est l'ensemble, qu'il soit réel ou fantasmé. D'accord ? Parce qu'au fond, l'ensemble prendra, et ceux du Sud prendront aussi l'idée qu'ils sont. Ils sont les descendants, les Israélites qui sont Israël, qui sont les descendants de Jacob. Ça marche ? Voilà. Donc il y a une ambiguïté dont il faut savoir qu'elle est là et qu'il faut faire juste très attention. Puis des fois, il y a des confusions exprès. Alors, j'ai essayé de clarifier un peu les choses, parce que historiquement, c'est important. David, Salomon, la séparation, et puis, vous voyez en noir à votre droite, à vous. Royaume d'Israël ou royaume du Nord. Capitale Samarie. Il n'y aura pas tout de suite Samarie. Hein. Elle devient capitale au bout d'un siècle à peu près. Donc, c'est compliqué au début parce que c'est des généraux qui se battent entre eux. Il y a un nom qui est dans les annales assyriennes, celui d'Omri, qui va être la dynastie qui a duré le plus longtemps, mais c'est jamais très long, hein. C'est 50 ans. Et puis après, il y en a d'autres qui prennent le pouvoir. Et puis un autre nom, Jéhu. Et Jéhu, il existe. Puisque vous allez le voir, crac, sur une stèle d'un roi assyrien, vous avez Sennachérib, vous avez Jéhu. Non, ce n'est pas Sennachérib, c'est un autre, c'est Choussa, peu importe. Le roi assyrien qui est à gauche et Jéhu qui est dans une position tout à fait humiliante et humiliée à genoux, en train de lui baiser les pieds ou la poussière et d'apporter des cadeaux ou des impôts, parce que c'était des cadeaux obligatoires. Ça va ? Donc ça, on en a vraiment des traces historiques. Jéhu, c'est un des généraux qui a établi un petit temps dynastique dans le royaume du Nord. C'est donc un royaume qui va être relativement riche, toujours sous le danger des Assyriens. Il est assez beaucoup plus grand que l'autre. C'est les plaines ou les petites plaines de Samarie-Galilée. C'est beaucoup plus riche que la montagne autour de Jérusalem. Donc, ils sont relativement riches et il y a des coups d'État sans arrêt. Il y a aussi sans arrêt les Assyriens qui ont envie de manger ce royaume. Il y a le fait qu'eux-mêmes s'allient parfois, et ils ont essayé de s'allier à la fin, au 8e siècle, avec le royaume d'à côté de Damas contre les Assyriens, et ça finit très mal. Et les prophètes Amos et Osée leur rappellent que ça va mal finir, et ça se termine tellement mal, je l'ai déjà dit, qu'en 721, les Assyriens s'installent, détruisent de fond en comble Samarie et déportent toute la population, exit le royaume du Nord. Ça marche ? Dans ce royaume du Nord, quand même, c'est intéressant. Donc le voilà, instabilité dynastique, coup d'État. Enfin, j'ai essayé de rappeler les choses. Ce qu'on a vu, c'est l'obélisque de Salmanassar. Voilà, chercher son nom. 825. Richesse économique, des menaces assyriennes, la déportation et là-dedans des prophètes. Des prophètes, Amos et Osée, donc les premiers prophètes écrivains d'Israël, même si l'écriture de leurs livres va se prolonger pendant 4 ou 5 ou 6 siècles, mais qui campent déjà ce que c'est qu'un prophète d'Israël. J'ai dit tout à l'heure, il dénonce, il n'annonce pas, et surtout, le prophète d'Israël, il tient les deux piliers de la loi, la fidélité au Dieu unique, le Dieu d'Israël, et la justice envers les faibles. Et ça, ça va toujours ensemble. Voilà. Et ce seront les deux grands commandements que reprendra Jésus de Nazareth. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais plus que le prochain qui n'est pas encore là chez Amos et Osée, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu défenseur des pauvres, des faibles, de la veuve et de l'orphelin. Il protège l'étranger, dit le psaume, il soutient la veuve et l'orphelin, il délie les enchaînés, il relève les accablés, etc. Et ça, c'est dès les premiers prophètes. Et dès cet Amos qui fustige les pratiques des riches commerçants qui achètent un pauvre pour une paire de sandales. Je te donne des sandales, mais t'es mon esclave. Voilà. Qui faussent les balances. Enfin, il y a des textes terriblement durs et terriblement contemporains. Voilà. Contemporains. Donc, rappelez-vous ça que chez les prophètes et dans la critique de l'institution royale que les prophètes ne cesseront de mener, il y a toujours les deux qui se tiennent et jamais l'un sans l'autre. Jamais l'un sans l'autre. C'est une tendance aujourd'hui de séparer les deux dans le christianisme. Je ne vais pas sacrifier aux malheureux mon lien à Dieu. On lit ça dans certaines déclarations. Ben, obligatoirement si, parce que Dieu, c'est le Dieu des malheureux. Et ça, les prophètes l'avaient dit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Fidélité au Dieu, un, et justice envers les droits des faibles, protection des faibles. C'est aussi dans ce royaume du Nord que les traditions, je vous l'ai dit, qui viennent, au fond, des tribus peut-être arrivées d'Égypte ou qui ont échappé effectivement à un esclavage, se rassemblent et où les récits autour de Moïse et de la sortie d'Égypte se condensent en un premier récit avec don de la loi et énoncé de la loi, qui est toujours une loi en faveur des pauvres, de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, pour former le cœur du premier du Deutéronome, qui est probablement le cœur de notre Deutéronome actuel. Quand Samarie tombe, un certain nombre de savants, de prophètes du royaume de Samarie ont filé au sud en emportant avec eux leurs richesses, les rouleaux des prophètes, ce qui était déjà mis par écrit, et les premiers rouleaux du premier stade du Deutéronome. Ça va ? Voilà pour ce triste royaume du Nord. Le royaume du Sud, capitale Jérusalem, appelé aussi royaume de Juda, va être, lui, beaucoup plus durable, puisqu'il va durer 400 ans, avec une série de rois que vous voyez apparaître dans le premier livre d'Isaïe, par exemple, et qui sont un peu typés, le mauvais roi, le bon roi. Achaz est le mauvais roi. Ézéchias, qui est en fait l'Emmanuel, l'enfant qui va naître et qui va sauver le pays, hein, c'est lui, va être caractérisé comme le bon roi. Bon, en fait, c'est justement beaucoup plus mélangé que ça. Eux aussi sont sans arrêt menacés par les Assyriens. Ils sont un peu plus au sud. Le royaume du Nord les protège, mais les Assyriens, une fois qu'ils ont commencé à descendre, ils veulent descendre jusqu'en Égypte, évidemment. Donc, sans arrêt, ils vont devoir payer tribut, composer, reprendre des forces quand la Syrie s'affaiblit au début du 7e siècle, s'affaiblir quand la Syrie est forte. Il y a, en 701, sous le règne d'Ézéchias, un épisode qui est raconté à la fois dans le livre des Rois et dans le livre d'Isaïe, et il faut que je vous le raconte parce que c'est quand même intéressant, c'est le siège de Jérusalem. Alors, les amis historiens me disent « Jérusalem a été assiégée tant de fois ». Je dis « Ouais, mais celui de la Bible, quand même, c'est pas rien ». Alors, le siège de Jérusalem par le roi assyrien Sennachérib, qui, dans sa descente vers le sud, voudrait bien faire sauter ce verrou. Donc, il menace, il fait payer l'impôt, puis il encercle la ville. D'autant qu'à Jérusalem, Ézéchias essayait toujours... Ils ont toujours essayé de comploter en s'appuyant sur l'Égypte, et l'Égypte n'était surtout pas fiable. Jamais elle a levé le petit doigt pour les aider. Donc c'était toujours peine perdue. En tout cas, Sennachérib met le siège autour de Jérusalem. Le roi Ézéchias va se battre contre l'envoyé du roi Sennachérib qui lui dit « Tu es vaincu, tu es un minable, ton Dieu est vaincu, puisque tu es vaincu, ton Dieu est vaincu, ce n'est pas Dieu. » Rend hommage au dieu des Assyriens. Lui, il est vainqueur. Isaïe apparaît et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'en prends à qui? Tu t'en prends pas au roi? Tu t'en prends au dieu d'Israël? On va voir ce qu'on va voir. » Et voilà que, pendant la nuit, raconte la Bible, l'ange du Seigneur a frappé le camp des Assyriens. La moitié sont morts et les autres se sont enfuis en courant. Et le lendemain matin, Jérusalem était libre. Bon, ben c'est vrai, Jérusalem a été libérée. Alors ça, c'est raconté comme ça par la Bible. Vous pouvez lire ça dans le deuxième livre des Rois, je crois que c'est le chapitre 19, enfin vous chercherez. Et c'est Isaïe 19. Oh, il y en a qui le savent mieux que moi, ça. Bon, peu importe. Ça, c'est la Bible qui raconte ça. Donc le siège qui se termine mal pour les assiégeants, à cause de l'ange du Seigneur qui vient frapper tout le monde. Dans les annales assyriennes, c'est raconté aussi. Et là, il est raconté qu'effectivement, Sennachérib va siéger Jérusalem, qui allait tomber, et qu'à ce moment-là, deux de ses fils, parce qu'il en avait une flopée, ont comploté contre lui à Ninive, et étaient sur le point de le renverser. Et que Sennachérib, ni une ni deux, quand il a appris ça, est parti en courant à Ninive pour mettre à mort ses fils et rétablir l'ordre. C'est une autre explication. Après, vous choisissez. Voilà. Après, vous choisissez. Vous voyez comment on raconte l'histoire ? Le résultat, quand même, c'est qu'Israël, Jérusalem, a été libérée. Que cette libération est restée comme, un peu comme la sortie d'Égypte, comme l'immense souvenir du jour où Dieu nous a libérés et nous a rendu Jérusalem, et donc il nous la rendra à nouveau un jour. Vous voyez ce que je veux dire? On a énormément grossi cette aventure-là, dont les historiens disent « Oui, enfin, c'est une histoire parmi d'autres. » Oui, mais voilà, ce jour-là, Dieu nous a sauvés, il le refera. Bon, au 7e siècle, on a un certain nombre de rois et on a surtout le roi Josias qui va régner très longtemps, mais pas assez quand même, de 630 à 609, qui est certainement un roi qui a été très, très, très astucieux, intelligent, politique, avec probablement une réforme religieuse de grande ampleur. Il a fait fermer tous les sanctuaires aux dieux de la nature et rassembler le culte à Jérusalem. Il a trouvé, ou on a trouvé à son époque, dans les travaux faits dans le temple de Jérusalem, un rouleau du Deutéronome, un rouleau de la loi. On a exhumé le rouleau de la loi, la prophétesse du Nord, Hulda, est arrivée, qui venait d'une famille du Nord, et a dit « Oui, c'est notre Deutéronome, c'est la loi, etc. Bon. » Est-ce qu'on l'a trouvé, ou est-ce qu'on l'a écrit à ce moment-là, ou on l'a réécrit, j'en sais rien. En tout cas, il a repromulgué la loi de Dieu, sous la forme de Deutéronome, quelque chose comme 12 à 26, fait restaurer le temple, resserrer le culte autour du Dieu unique. Et, ça c'était moins intelligent, il a rêvé de agrandir les frontières vers le nord et peut-être de restaurer, reprendre ce qui avait appartenu à la Syrie, le nord de la Samarie, et, enfin, ce qu'on a appelé ensuite la Samarie et la Galilée. En tout cas, la Samarie et la Galilée. Et là, ça s'est très mal terminé, puisque dans la bataille, non plus contre les Assyriens, mais contre les Babyloniens qui les avaient remplacés, vous inquiétez pas, c'est tous les mêmes, ils viennent du même endroit, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, et ça s'est très mal terminé, parce que les Babyloniens, qui ne voulaient plus avoir d'histoire, ont décidé qu'on allait mater ce petit pays et en finir avec lui. Ça a mis longtemps, ça a mis 20 ans, de 709 à 588, mais enfin, les Babyloniens sont arrivés à avancer, occuper toute la région, assiéger Jérusalem, et cette fois, Jérusalem, au bout de 10 ans, est tombée, tout a brûlé, le temple détruit, etc. Et non plus une déportation, mais un exil en 2 temps, du roi d'abord et de sa cour, alors on dit 8000 personnes, et puis un deuxième temps, un peu moins, en 588, peu importe. C'est à cette époque qu'on entend parler des grands prophètes comme, alors, j'arrive à Jérémie, à cette époque-là. Donc le royaume du Sud, pour vous rappeler, une dynastie stable, Jérusalem, des rois plus ou moins bons, le siège de Jérusalem essentiel, le roi Josias et une réforme religieuse autour du Deutéronome, et puis la prise de Jérusalem par les Babyloniens, et là c'est vraiment la chute de la ville et l'exil à Babylone, des élites, mais la ville est quand même largement détruite et le temple brûlé, donc il n'y a plus rien. C'est à cette époque-là qu'on a des très grands prophètes qui vont être au fond les prophètes majeurs, deux des prophètes majeurs, mais il y a aussi des plus petits, de la littérature de la Bible. Le prophète Isaïe, en tout cas, une première partie du livre d'Isaïe, mais pas tout dedans, certains oracles, entre 720 et 700, avec le roi Ézéchias, Michée à peu près à la même époque, et Jérémie sous le roi Josias et ses successeurs. Jérémie est le prophète qui dénonce à nouveau la mauvaise politique des rois du Sud après Josias, qui annonce avec force l'arrivée des Babyloniens et qui a cette attitude jugée ambiguë et même collaboratrice de dire « Mais arrêtez de vous révolter, soumettez-vous aux Babyloniens. Payez, 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 mais restez libres. » Évidemment, c'est dur comme attitude à tenir parce que les autres veulent se révolter. Les rois de Juda cherchent appui en Égypte, ils complotent contre les Babyloniens. Mais il est probable que Jérémie n'était pas le collaborateur qu'on a dit être, mais avait une vision fine de la situation politique et savait bien que c'était ou baisser la tête ou mourir, et qu'on est mort. Voilà. Et lui-même va mourir, emmené en Égypte, enfin, dans des conditions lamentables, disparaître dans la tourmente. Voilà. Ce que Jérémie annonce, c'est la tourmente en disant « Si vous ne jouez pas au plus fin du point de vue politique, quitte à être humilié, quitte à être écrasé par l'impôt, vous mourrez et vous êtes mort. » Voilà. Et c'est l'exil à Babylone. C'est compliqué le livre de Jérémie, parce que Jérémie est justement le type du prophète qui sait très bien qu'on ne l'écoutera pas, sait très bien que ça va mal finir, se débat avec ce qu'il a à dire, parce que ce qu'il a à dire est insupportable pour les gens qui l'écoutent. Quand on est sous la botte étrangère, on n'a pas du tout envie de dire « baisser la tête ». Mais compliqué, hein, c'est compliqué. Il ne faut pas faire trop vite des parallèles historiques parce qu'on va loin comme ça. La souffrance de Jérémie, c'est « j'ai à dire des choses qui sont inadmissibles ». Mais le Seigneur m'a mis sa parole dans la bouche et de toute façon, je n'ai pas le choix, je dis. Et il en meurt avec les autres. À partir de là, on va partir à Babylone et c'est notre dernier temps, au moins pour l'après-midi. Parce que la suite, on la fera en janvier avec le Nouveau Testament. On va s'installer à Babylone, voir le moment où on en sort et ensuite s'en tenir là. Quand ces élites arrivent à Babylone, leur pays a été largement pillé, ravagé, détruit. Jérusalem n'existe plus ou presque pas. Il y a des ruines, il y a toujours des gens pour survivre dans les ruines. On le sait trop. Et pour reconstruire un petit bout de maison. Enfin, le temple a brûlé. Il n'y a plus aucune administration. Il n'y a plus d'institution royale. Le dernier roi est parti à Babylone, où il est bien traité d'ailleurs. Parce qu'il s'est livré lui-même. C'était un jeune roi de 20 ans qui a eu le courage de se livrer en disant « En me livrant, je sauve la ville. » Il a sauvé 10 ans. Donc, il est bien traité. Mais enfin, il n'y a plus de roi de Juda. Il n'y a plus de roi de ceux qui s'appellent maintenant à nouveau Israël, si vous voulez. Bon, plus d'institution royale. Il n'y a plus de terre, parce que la terre, c'est fini, on l'a perdue. Il n'y a plus de capitale, Jérusalem. Il n'y a plus de temple. Et ce temple où l'on offrait des sacrifices au Dieu unique, Dieu venant habiter au milieu de son peuple, selon ce qu'avait essayé d'affirmer le roi Josias, tous à Jérusalem autour du temple du Seigneur, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'administration du temple, de grands prêtres, où sont passés les scribes, etc. Tout le monde est parti, tous ceux qui avaient une espèce d'autorité et qui structuraient la société, tout le monde est en exil à Babylone. Au fond, quelque part, on a perdu tous les repères, on a aussi perdu, parce qu'ils sont partis à Babylone, les scribes et les artisans. Conclusion logique, que les Babyloniens ne cessent de leur rappeler, Dieu vous a abandonné. Ben oui, vous êtes vaincu. Vaincu à plat couture, écrasé, déporté. Dieu vous a abandonné. Et donc, c'est la question qui se pose à Babylone. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu a abandonné son peuple et on lui dit au revoir et merci, on se tourne vers les dieux babyloniens? Et certains l'ont fait, bravement. D'ailleurs, Jérémie leur écrivait, construisez des maisons, plantez des vignes, installez-vous, vivez. Mais évidemment, continuez à transmettre la foi au Dieu unique. Mais installez-vous, vous allez y rester quelque temps. Voilà. Est-ce qu'on se tourne vers les Babyloniens ou est-ce qu'on essaye, avec tout ce qu'on a pu emmener et avec notre énorme mémoire, de garder une fidélité et de construire, de reconstruire notre identité? C'est ça le deal, hein, le choix. Voilà. Il y avait un choix et pour quelques-uns au moins, le choix a été fait d'un repli fortement identitaire, mais il ne fallait pas se faire bouffer par la richesse et la splendeur des religions et de l'économie et des villes babyloniennes, un repli identitaire autour des traditions du Dieu d'Israël et de l'histoire d'Israël qu'on avait emportées. Ça va ? Voilà. Et c'est au fond ça qui va être... Alors, on en reparlera plus tôt à la rentrée, mais la naissance du judaïsme. C'est à partir de la fin de Babylone qu'on commence à parler du judaïsme. C'est les gens de Juda, hein, les gens de la tribu de Juda, du royaume de Juda, qui ont repris le dessus. Alors, quelle a été leur façon de garder cette identité? Premièrement, rassembler les traditions. Rassembler les traditions, relire, méditer, retrouver un sens, écrire. Écrire quoi? Écrire pour répondre à la question « Dieu aurait-il abandonné son peuple ?» La réponse « Impossible, de toute façon, de Dieu, il n'y en a qu'un et c'est le nôtre. » Voilà, c'est la réponse. La réponse donnée à Babylone, c'est « Non, il ne peut pas nous avoir abandonnés parce que c'est le Dieu créateur et il n'y en a qu'un. Le Dieu créateur et sauveur, c'est le même et c'est le nôtre. Et c'est le Dieu de tous. » Et vous avez donc l'école d'Isaïe qui va marteler dans les chapitres 40, surtout 43, 45 d'Isaïe, « Je suis Dieu, moi. » Alors en hébreu, c'est « moi, c'est lui. Lui, c'est moi. Voilà, je suis Dieu, moi. » Et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, rien. C'est clair. C'est au fond le fondement, je crois, du monothéisme. Même s'il va y avoir des concurrents à nouveau du polythéisme qui va se mêler à ça. Mais c'est les fondations du monothéisme et c'est ça qui permet de tenir et de dire aux Babyloniens, pas du tout, mais pas du tout. Notre Dieu n'est pas vaincu, d'ailleurs, vous êtes toujours vivant. Donc, notre Dieu qui est le Dieu créateur est toujours avec nous. Alors, c'est à cette époque-là qu'on écrit probablement le premier récit de la création qui fait pièce aux mythologies babyloniennes. Voilà, Dieu a créé le monde, c'est lui qui a tout fait. Séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, fait apparaître, etc. Et ce Dieu qui a créé est aussi le Dieu qui nous a sauvés. Et on écrit ou on réécrit à partir des vieilles traditions de l'Exode que les gens du Nord avaient amenées dans le royaume du Sud et puis qui étaient revenus avec eux à travers les rouleaux du Deutéronome jusqu'à Babylone, on va réécrire la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. Et si vous lisez bien la traversée de la mer, dans une des deux versions, au chapitre 14, on a deux récits qui sont emmêlés ensemble de telle façon que c'est presque impossible de les séparer. Sauf qu'on voit que ce n'est pas cohérent. Moi, les gamins du catéchisme l'avaient dit. « Madame, ce n'est pas logique. Ils séparent les eaux et après, il y a un vent du nord qui balaye. Alors, où est-ce qu'il passe ?» Je dis, toi, tu es drôlement malin. Tu sais lire. Il y a deux façons différentes de raconter ce récit. Il y a deux façons différentes et elles sont emmêlées. Mais il y en a une qui est visible, c'est celle qui sépare les eaux pour faire apparaître le sec. C'est le même vocabulaire que celui de Genèse 1. Dieu qui sépare les eaux pour faire apparaître la terre sèche. Lorsqu'il a sauvé notre peuple, ce Dieu était le Dieu créateur qui venait continuer son œuvre de salut. La création, c'est un salut. On arrache le monde à la fusion du tohu-bohu en séparant. Le salut d'Égypte, la sortie d'Égypte où on sépare les eaux pour faire traverser la mer et la mort au peuple, c'est une nouvelle création. Ça marche ? Et à Babylone, lorsque un peu plus tard, on va y arriver, on va entrevoir le moment où on va pouvoir rentrer chez nous, au moins quelques-uns, hein, ceux qui tiennent bon et qui veulent rentrer, parce que le Perse Cyrus va arriver et leur permettre de rentrer, on va annoncer, écrire ce retour comme un nouvel exode. À nouveau, nous allons traverser le désert, cette fois-ci celui du nord de la Babylonie, pour revenir chez vous, et comme une nouvelle création. À nouveau, Dieu va nous sauver de la mer, des flots, des déserts, et nous faire vivre. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a cet énorme bouillonnement intellectuel pour reprendre les vieilles traditions, écrire, rassembler, etc. Les scribes des écoles prophétiques, surtout d'Isaïe, mais l'école du Deutéronome, ils avaient lu Jérémie, ils avaient emmené les lettres, les œuvres de Jérémie, l'écriture, parce que c'était écrit avec eux, ils reprennent, ils complètent, etc. Et donc la première chose, c'est qu'on constitue un d'ensemble de documents fondateurs d'une identité qui va être l'identité du judaïsme. Ça ne suffit pas, les documents. C'est bien gentil, la littérature, mais ça ne suffit pas. Il faut le vivre. Évidemment, la loi, selon le Deutéronome, puis on récupère les vieilles lois, etc. Et surtout, des rites séparateurs. Il faut se distinguer de ce peuple babylonien séduisant et envahissant. Il faut qu'on se fonde pas, qu'on se perde pas. Quel rite séparateur se met en place à ce moment-là? Le sabbat, le septième jour, avec le récit de la Genèse. Il y avait déjà des fêtes de la nouvelle lune et de la pleine lune à la fin du mois, tous les 15 jours. Mais là, on institue vraiment la fête du sabbat. Ça sépare. Le sabbat, on ne travaille pas, on se repose et on célèbre Dieu. Les règles alimentaires. On ne va pas manger n'importe quelle nourriture, et surtout pas celles qui sont en train de nous présenter, là. Voilà. Et un certain nombre de fêtes, notamment aussi la fête du Kippour, une fois par an, pour demander pardon de nos péchés, se retourner vers Dieu, et rappeler que Dieu, chaque année, renoue alliance éternellement avec nous, et que puisqu'il nous a sauvés, il nous sauvera. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres rites. Enfin, vous voyez, des rites dont on va dire qu'ils sont séparateurs, identitaires, ça va être reproché aux Juifs par la suite. Pourquoi est-ce que les Romains détesteront tant les Juifs? Parce qu'ils sont fascinants avec leur Dieu unique, leur morale, mais aussi parce qu'ils se séparent tout le temps. C'est énervant, ces gens qui font rien comme les autres. Ben oui, mais c'est ça qui leur a permis de tenir. Voilà. Et d'échapper à l'envahissement par les Babyloniens jusqu'au jour où on pourra repartir. Alors, ce qui est intéressant aussi, et je termine là-dessus avant de vous laisser poser des questions, c'est que dans cette abondance de relectures, etc., ils n'ont jamais asséné une pensée unique. La seule pensée unique, c'est Dieu est un, et c'est le nôtre, et il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est la pensée unique de tout le monde. Mais après, comment Dieu va nous récupérer alors que nous sommes dans une situation impossible ? Qui est d'ailleurs un peu notre faute, parce que quand même on a très mal agi, on n'a pas écouté les prophètes, etc. Là, il va y avoir dialogue entre certaines tendances. Et on va voir apparaître des gens qui tiennent plutôt certaines traditions, d'autres telles autres, etc., et qui commencent ce travail de consensus, parce que moi je crois qu'il y a un consensus différencié dans la Bible. Évidemment, j'emploie un terme très contemporain pour l'œcuménisme, mais on en a un modèle dans la construction même de la Torah, des gens qui appartenaient à des mouvances un peu différentes, des points de vue différents, qui se mettent d'accord pour construire un récit commun en plusieurs livres, avec voilà, plusieurs choses. Il y a plusieurs réponses. Je simplifie à l'extrême, mais quand même, ça s'appuie sur des réalités bibliques. Il y a la théologie sacerdotale, celle des prêtres et de ceux qui vont en fait reprendre le pouvoir quand on sera rentré dans le pays, qui considèrent que Dieu a passé avec Abraham, donc avec les grands ancêtres le plus haut qu'on remonte, et ça se mettra surtout en place quand on va rentrer, une alliance éternelle. Parce que de toute façon, si Dieu est Dieu, Dieu est fidèle. C'est même sa définition. Et si Dieu nous fait confiance, eh ben, il ne nous enlèvera jamais sa confiance. Donc il est capable de recréer le peuple. Et quand le grand prophète Ézéchiel se met en marche pour les accompagner, parce qu'Ézéchiel est à la fois un prêtre et un prophète, et il fait partie de ce groupe-là. Quand Ézéchiel constate que ce peuple est imbuvable, on ne peut pas le changer, Jérémie l'avait déjà dit, hein, on ne change pas le pelage d'une panthère, et les habitués du mal, on leur fera pas, on leur apprendra pas à faire le bien. Voilà, vous êtes foutus, dit Jérémie aux gens. Et Ézéchiel le reprend. Eh bien, Ézéchiel dit, eh bien, Dieu va vous sauver, pas pour vous, vous êtes trop minables, mais pour l'honneur de son nom. C'est formidable, ça. C'est formidable. Parce qu'au fond, même si vous êtes nullissime, indécrottable, inchangeable, Dieu ne vous lâchera pas parce qu'il s'est engagé et que c'est l'honneur de son nom. Je trouve ça génial. Alors on dit toujours, Ézéchiel, il est compliqué, puis qu'est-ce que c'est que cette histoire d'honneur de Dieu, etc. Mais c'est fabuleux comme histoire. C'est la pointe extrême de l'espérance. Quand vous êtes vraiment au fond du trou et que c'est votre faute et qu'on n'y arrivera pas et que cette humanité, elle ne s'en sortira pas, elle est trop mauvaise, elle est trop nulle, elle est trop pourrie, Ézéchiel vous dit, ah non, il va venir vous rassembler. Pourquoi ? Pas pour vous, pour l'honneur de son nom. Je trouve ça fabuleux. Bon. Donc, une alliance éternelle. Alors, évidemment, l'alliance éternelle, il faut une réponse. Et puis, il faut la renouveler de temps en temps, il faut s'en souvenir. Et le Kippour, c'est le fait que chaque année, on renouvelle, non pas le fait que Dieu fait alliance, mais le fait qu'on se repent pour rentrer dans l'alliance que Dieu éternellement répète. Ça va ? C'est une réponse cultuelle, mais en même temps qui est assez universaliste et optimiste, parce que quoi qu'il arrive, au fond, voilà, Dieu vous rattrapera pour l'honneur de son nom. Ça, on pourrait dire que c'est la réponse des prêtres qui va prendre un peu le dessus au retour d'exil. Il y a une autre réponse, qui est celle des deutéronomistes, de la tradition qui venait du Nord. L'alliance y est beaucoup plus proche des contrats, surtout des contrats hittites, entre les féodaux, entre un seigneur féodal et son vassal. Je fais alliance avec toi, je te protège, mais en revanche, tu respectes ça, ça et ça. Voilà. C'est-à-dire que l'alliance, elle est quand même conditionnelle. On vous donne la terre, mais, dit le deutéronome, si vous ne protégez pas la veuve et l'orphelin, si vous n'accueillez pas l'étranger et l'immigré, si vous ne respectez pas le pauvre et le faible, alors la terre vous vomira. C'est dur. Mais les deutéronomistes ont un fort accent éthique. Et c'est pour ça que leur alliance, on peut dire qu'elle est à condition éthique. Alors c'est eux aussi qui sont assez pessimistes. C'est eux qui introduisent dans la relecture de l'histoire, les livres de Samuel et des rois, la théologie de la rétribution. Si, comme ils ont toujours mal agi, eh ben, l'alliance a été tout le temps rompue et ils ont été tout le temps malheureux. Il y a un danger à ça. Hein. La réponse éthique, elle est à la fois magnifique parce que c'est la responsabilité humaine, mais le danger, c'est si on est heureux, c'est qu'on a été bon, si on est malheureux, c'est qu'on a été mauvais, ce qui n'est pas vrai. En même temps, ça a sa grandeur, évidemment. Voilà. Dieu fait alliance, mais vous avez une responsabilité. Et puis, il y a un troisième groupe qui ne se détache pas vraiment, mais qui va de l'un à l'autre. Ézéchiel, à la fois prophète et scribe. Ceux qui ramènent les œuvres de Jérémie sont plutôt du côté des deutéronomistes. Le second, Isaïe. Isaïe des chapitres 40 à 55, qui ont une idée géniale. Ils ont le pessimisme d'Ézéchiel et de Jérémie, des grands prophètes. L'homme est fichu. Mais, comme Dieu n'abandonne pas, il y a une promesse. Dieu, un jour, conclura avec son peuple une alliance nouvelle. Et ce ne sera pas comme les alliances du passé. Le passé est toujours là pour garantir l'avenir, mais le passé, vaut mieux l'oublier parce qu'on n'a jamais su être convenable. Donc ce ne sera pas comme dans le passé, parce que là, Dieu va recréer le cœur humain. Il mettra sa loi au fond de l'être humain et il rendra leur cœur spontanément complice de sa loi. Donc en fait, comme l'homme est inchangeable, ben, il va transformer l'humanité. C'est une promesse. C'est une réponse anthropologique. J'écrirai ma loi au fond de votre être, je l'inscrirai sur vos cœurs. Et évidemment, les chrétiens ont dit, ah mais ça commence à ressembler à quelqu'un qu'on connaît. Est-ce que Jésus de Nazareth, ça ne serait pas un peu ça? Le cœur humain accordé, complice avec la volonté de Dieu. Bonne volonté de bénédiction. Bon. À partir de là, on va être libéré de Babylone par Cyrus, le roi des Perses. J'en ai déjà dit beaucoup, c'est la naissance du judaïsme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis d'un mot et je vous laisse la parole. Vers 539, l'empire babylonien qui commence à s'effilocher, c'est trop grand ces empires. Quand on va d'Uran Chaldée jusqu'à l'Égypte, on ne tient pas. Et pourtant, il va être balayé par des gens qui iront encore plus loin et qui viennent de plus loin, les Perses. Mais balayé pratiquement sans combat. On tombe devant la puissance perse qui s'impose. Alors, les Athéniens, eux, ils vont se battre un peu plus tard. Mais là, Babylone tombe et le roi Cyrus, roi des Perses à ce moment-là, pratique une politique. Alors, on a fait de Cyrus le Messie d'Israël. Attention, Isaïe 45, Cyrus, mon Messie, pour sauver mon serviteur Israël. Mais Cyrus, mon Messie quand même. Le roi Cyrus, qui n'était probablement pas un Messie, je ne sais pas s'il était très religieux, en tout cas, il était très malin, très malin. Et donc, Cyrus a comme idée qu'il faut laisser aux populations locales, dans un empire aussi immense, une grosse liberté, une grosse tolérance d'administration et religieuse. Il faut simplement qu'ils ne se révoltent pas et qu'ils payent l'impôt. S'ils payent l'impôt et qu'ils restent tranquilles, on peut même les aider à reconstruire. Ça les aide à s'apaiser. On va aider à reconstruire le temple de Jérusalem. On va même aider à reconstruire les remparts. Ça va les calmer. Voilà, ça va les calmer, ils vont s'enrichir, ils vont payer l'impôt. Alors, ça c'est quand même été difficile. Mais en gros, c'est ça l'idée de Cyrus. Et c'est lui qui autorise à ceux qui le voudront, ils n'ont pas été très nombreux, ils vont mettre du temps à rentrer, 38, mais c'est surtout autour de 520, entre 538 et 530, la possibilité de rentrer. Voilà. Et donc ça va être le retour et la naissance du judaïsme. On en parlera en janvier, parce que je parlerai du Nouveau Testament dans le cadre de la naissance du judaïsme au retour à Jérusalem. En attendant, avant de donner la parole, pour un tout petit peu détendre l'atmosphère, l'habileté de Cyrus, en tout cas c'est ce qu'on raconte. Quand il a pris la Perse, il a appris qu'en Lydie, il y avait un roi qui était très riche, qui s'appelait Crésus. Et pourquoi Crésus est très, très riche? C'est parce qu'il y avait un fleuve qui s'appelait le Pactole à cet endroit-là. Et le Pactole roulait des pépites d'or ou des paillettes d'or. Cyrus malin a appelé Crésus, je te fais mon ministre des Finances. Voilà, j'arrête là et je vous laisse la parole pour des questions avant de vous renvoyer chez vous. La prochaine fois, vous allez, la prochaine fois. 14 janvier par Zoom. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? On n'est pas encore en janvier. Ça va? Pas de questions? Vous êtes mort épuisé. Des choses à éclaircir? Ah, quand même, c'est gentil. Non, forcez pas. On peut s'arrêter là. Parce que le judaïsme, c'est pas nécessairement le peuple, les Israéliens. Parce qu'il y a... L'État d'Israël n'a pas été fondé par des religieux, mais par des laïcs. Il a pu redevenir religieux après, mais l'État d'Israël, 48, n'a pas été fondé par des religieux, mais par des laïcs. Et donc, on ne peut pas tout mélanger. Et d'autre part, entre deux, il y a 2000 ans d'histoire où les chrétiens ont quand même largement massacré les juifs en attendant que ce soit les nazis qui les exterminent. 17 janvier, excusez-moi, c'est un samedi de janvier. C'est un peu trop loin pour moi. Voilà. Oui. D'où venez? De là. Alors, on les appelle les peuples de la mer. Personne ne sait trop. Peut-être des côtes du nord de l'Asie, c'était des... Moi, je ne sais pas bien et personne ne sait trop. Peut-être des gens qui étaient venus toujours, ils viennent tous des plaines d'Asie centrale. C'était un peu fixé sur les côtes, étaient devenus des marins par tradition et vivaient en fait de déplacements sur la mer en faisant des razzias. On ne sait pas exactement, dans plein de traditions, les traditions grecques aussi, il y a les peuples de la mer qui sont des gens qui viennent et qui s'installent plus ou moins et puis qui après font souche. Oui, vous le savez peut-être. Ah bon, dommage. Alors, je ne sais pas. Je ne crois pas. Fulet, attendez. Non. La Palestine, le mot n'a été employé que à partir après 70 après Jésus-Christ. Donc le mot n'y était pas à l'époque de Jésus. Et peut-être même après 135 Adrien, pour désigner la nouvelle région romaine de Syrie-Palestine, gouvernée directement par Rome, ça avait trop bougé, avec des légions sur place, etc. Et c'est à ce moment-là que ça prend le nom de Palestine. D'où venait ce nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas sûr que... Ça peut ressembler à Philistin sans être du tout du même ordre. Je ne sais pas. Donc, on va demander à M. Romer. Il nous dira sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Philistins sont beaucoup appelés surtout peuple de la mer, et que ça, on en retrouve dans un peu toutes les civilisations méditerranéennes. Voilà. Notamment la Grèce, très ancienne, autour du 10e, 11e siècle. Deux populations qui vivaient, petites populations qui vivaient de razzia. Écoutez, je crois qu'on est bien fatigué, qu'on va se souhaiter un bon week-end et peut-être pour vous en janvier.